Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Vous le savez, à partir du 1er janvier 2019, l'impôt sera bien prélevé chaque mois sur votre fiche de paye. Mais Bercy a apporté des ajustements importants au dispositif. Bercy a corrigé sa copie. Bonjour Thierry Vieux. Vous êtes avocat fiscaliste au cabinet Francis Lefebvre. Vous êtes également ancien conseiller technique en charge de la fiscalité au ministère de l'économie. Vous avez longtemps travaillé au sein de la Direction générale des impôts. Il n'est peut-être pas inutile tout d'abord de nous donner votre point de vue sur les difficultés, semble-t-il, qui ont accompagné la mise en place de ce fameux prélèvement à la source.
Bien, bonjour, merci de m'avoir invité. C'est un véritable Big Bang fiscal auquel nous allons assister au 1er janvier 2019, qui se caractérise par, finalement, trois aspects. Le premier, c'est la façon de payer ces impôts que vous avez rappelé qui va changer. On va payer chaque mois ces impôts sur la fiche de paye. Le second, c'est qu'on fait intervenir un nouvel acteur dans le prélèvement de l'impôt. Un collecteur, c'est l'entreprise, celui qui verse les revenus. Jusqu'à présent, l'impôt était payé directement au fisc. Dorénavant, à compter de 2019, c'est l'entreprise qui va collecter l'impôt et qui va le reverser à l'État. Et la troisième chose qui est fondamentale, c'est que les impôts vont pour la première fois être, dans un langage technique, contemporains. C'est-à-dire qu'on va pouvoir payer ces impôts sur les revenus de l'année. Aujourd'hui, lorsque vous n'avez plus de revenus, vous devez payer les impôts sur les revenus de l'année précédente. Ça peut poser des difficultés. Si vous vous retrouvez à Pôle emploi, par exemple, et que pour des raisons administratives, vous ne bénéficiez pas immédiatement de l'indemnité, si vous devez liquider votre retraite et que cela prend du temps et que vous vous retrouvez pendant quelques temps sans revenus, vous devrez continuer à payer vos impôts parce que vous avez réalisé des revenus, vous avez perçu des revenus l'année précédente. Et ça peut vous poser des difficultés de trésorerie. Et l'objectif de la réforme, effectivement, c'est de permettre de trouver des solutions aux personnes dont les revenus varient d'une année sur l'autre. Alors c'est une mécanique un peu complexe qui va engendrer évidemment, qui engendre quelques effets collatéraux compte tenu de notre système fiscal qui a, comme vous l'avez indiqué, quelques particularités parmi lesquelles celle d'avoir un certain nombre de niches fiscales, des crédits d'impôt pour les salariés à domicile, les travaux, les dons aux associations, les dons aux œuvres, etc.
Mais ça, c'est quand même pas une spécificité française, parce que on a regardé dans les archives, on s'est rendu compte, Thierry Vieux, que finalement, cette réforme qui est aujourd'hui faite, ou en tout cas qui va prendre effet au 1er janvier, cela fait longtemps que des présidents y songent. Par exemple, on a retrouvé donc un extrait de Valéry Giscard d'Estaing alors qu'il était ministre des Finances. Écoutons-le.
Au fur et à mesure que le poids de l'impôt augmente en raison de la progression des revenus, car heureusement les revenus réels des Français augmentent, les charges de trésorerie de l'impôt pour un particulier deviennent des charges très lourdes. Il a à payer soudain au 15 septembre des sommes qui représentent pour lui plus d'un mois très fréquemment de son traitement, de son salaire, donc une difficulté de trésorerie. Alors tous les pays comparables, c'est-à-dire l'Allemagne, les États-Unis, la Grande-Bretagne, ont une autre technique qui consiste à retenir mensuellement une partie de l'impôt, une sorte d'acompte. Nous n'avons pas choisi le système, parce qu'il y a en France une certaine prévention contre le paiement mensuel de l'impôt. Alors cela peut être ou la technique de la retenue à la source, ou au contraire la technique du paiement mensuel volontaire de l'impôt. On confie à un organisme, qui peut être son employeur, qui peut être une banque, qui peut être les chèques postaux, le soin de payer pour vous, mois par mois, l'impôt.
Donc c'est Valéry Giscard d'Estaing le 3 septembre 1970, donc ça fait un certain temps. Il était déjà favorable, semble-t-il, au prélèvement à la source de l'impôt. Pourquoi avoir mis autant de temps, Thierry Vieux? Pourquoi cette spécificité française?
Alors, déjà en 1970, je n'étais pas en fonction, comme vous pouvez l'imaginer, ni né. S'agissant de l'impôt à la source, je souhaiterais rappeler qu'il existe en réalité depuis 1991 en France. Michel Rocard a inventé la contribution sociale généralisée, qui est prélevée tous les mois sur les salaires, sans individualisation, tous les mois sur les revenus, sur la fiche de paye, les salariés peuvent voir le montant de la contribution sociale généralisée. Et ça ne pose aucun problème pour l'instant. À personne, c'est un impôt quasi invisible et c'est d'ailleurs une difficulté. Ensuite,
pourquoi une difficulté?
Parce que les salariés peuvent ne pas faire attention au montant de la CSG qui vient s'ajouter au montant de l'impôt sur le revenu.
Mais le taux de la CSG, il est commun aux salariés. Alors que le problème du taux de l'impôt, c'est qu'évidemment, il différera en fonction des revenus de chacun, Thierry Vieux.
Exactement, et c'est la raison pour laquelle l'intérêt de cette réforme, c'est aussi, lorsque vous avez un accident de la vie, de pouvoir arrêter de payer des impôts. Un accident de la vie, ou lorsque vous voyez que vos revenus vont baisser, de pouvoir modifier le taux du prélèvement en contactant l'administration fiscale. Et ça, c'est quelque chose de très moderne, adaptable, et qui répond véritablement à des difficultés très concrètes qu'on rencontre, que j'ai rencontrées moi dans mes précédentes fonctions et que je continue à rencontrer aujourd'hui dans un cabinet d'avocats. Des personnes viennent nous voir en disant « Comment vais-je faire pour payer mes impôts ? Ma situation a changé. Comment dois-je faire ? Est-ce qu'on peut s'arranger, entre guillemets, avec l'administration ?» etc. Ça, ce sont des problèmes très concrets que va permettre de résoudre la réforme.
Il y a quand même un problème de confidentialité dans cette réforme. Et alors, pour une fois, l'humanité est d'accord avec le MEDEF, puisque Geoffroy Roux de Bézieux a dit que l'employeur n'avait pas à connaître les revenus complets d'un salarié. Et puis l'humanité, ce matin, fait sa une là-dessus en disant que la rupture de la confidentialité dans cette réforme de l'impôt est problématique. Votre point de vue ?
Alors, déjà, je pense que les employeurs, les chefs d'entreprise ont des fois mieux à faire que de s'occuper du revenu, du montant des impôts payés par leurs salariés. Par ailleurs,
là, vous êtes peut-être un peu optimiste, parce que c'est intéressant de savoir si, par exemple, un salarié a des revenus complémentaires. Dans ce cas-là, lorsqu'on discutera augmentation, on pourra éventuellement lui dire que, bon, il a déjà des revenus confortables.
Je pense que ce qui est intéressant pour un chef d'entreprise, c'est d'avoir des salariés qui sont bien dans leur entreprise et qui n'ont pas de problème de trésorerie à la fin du mois. Je crois que c'est plutôt l'essentiel. S'agissant de la confidentialité, au cas particulier, la réforme ne prévoit pas que les chefs d'entreprise vont avoir des informations sur les revenus du foyer. C'est pas du tout le cas. Au contraire, ils vont recevoir de l'administration un taux qui aura été calculé par l'administration en fonction des revenus du contribuable, du foyer, pardon. Et si le contribuable ne le souhaite pas, il peut opter pour un taux neutre qui rend de manière tout à fait invisible la nature des revenus qu'il perçoit aux yeux de l'employeur.
Je parlais d'une philosophie de l'impôt et notamment dans les choix qui ont été faits en France, il y a une notion qui n'est pas une notion universelle. Cette notion, c'est le foyer fiscal. Quelles sont les conséquences de cette notion de foyer fiscal et comment va-t-on conjuguer l'impôt à la source, puisque l'impôt à la source, il existe dans de nombreux pays, mais il est un impôt prélevé sur l'individu, puisque dans d'autres pays, le foyer fiscal n'existe pas, ce qui pose des difficultés d'application, Thierry Vieux.
Alors, le foyer fiscal, c'est une très belle invention française, puisque cela permet de tenir compte des charges de famille. On n'impose pas un individu en France, on impose un foyer fiscal. C'est la raison pour laquelle il y a des parts, des demi-parts, pour les enfants, etc. Et donc, au cas particulier, s'agissant du prélèvement à la source, le taux qui est calculé par l'administration et qui est transmis à l'employeur tient évidemment compte de cette situation. Et le taux est celui qui procède, qui résulte de l'imposition au niveau du foyer fiscal. Après, si les contribuables le souhaitent, lorsque notamment il y a des écarts de revenus entre des conjoints...
Ben oui, parce qu'on dit que ça va poser problème, il faut que vous expliquiez pourquoi, Thierry Vieux.
Eh bien, ça peut poser des problèmes de manière marginale en réalité, puisque il peut arriver que dans un couple, l'un des conjoints gagne beaucoup plus que l'autre. Dans cette situation-là, il serait anormal que le conjoint qui gagne le moins se voit prélevé au taux du foyer fiscal. À ce moment-là, un mode de calcul spécifique est prévu qui permet de tenir compte des ressources propres du conjoint qui gagne le moins.
Et voilà. Par conséquent, donc, il y a donc la possibilité de contourner cette difficulté. En revanche, là où il risque d'y avoir des problèmes, et c'est là où on parle de trésorerie de l'État, puisque c'est de cette trésorerie-là dont il est question, les problèmes peuvent naître de ces niches fiscales qui sont nombreuses en France et qui ne sont pas nécessairement faciles à conjuguer avec le prélèvement à la source de l'impôt.
Tout à fait, parce que le montant du prélèvement, le taux qui est calculé par l'administration, ne tient pas compte des crédits d'impôt, réduction d'impôt. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a indiqué, par la voix de son Premier ministre et par la voix du ministre du Budget, il y a quelques jours, que le montant des crédits d'impôt, qui résultent des dépenses qui auront été engagées l'année précédente. Alors, c'est un peu compliqué, mais voilà. Eh bien, fera l'objet d'un acompte qui sera versé dès le mois de janvier, un acompte à concurrence de 60% du montant. Et cela concernera, comme l'a indiqué le ministre du Budget, toutes les réductions d'impôts et crédits d'impôts.
Ce qui veut dire que ça va appauvrir l'État, puisque finalement, c'est l'État qui va apporter de la trésorerie
au ménage.
C'est
une question de trésorerie, je ne suis pas
au gouvernement. C'est étrange que dans une période où on parle, en quelque sorte, de bonne gestion des deniers publics, la seule solution, finalement, ce soit pour réussir à conjuguer prélèvement à la source et niche fiscale, ce soit d'apporter une trésorerie au ménage.
Il faut rappeler quelque chose, c'est que le crédit d'impôt ou la réduction d'impôt, c'est un droit pour les contribuables. Donc, l'État doit la restituer d'une façon ou d'une autre. Donc là, il a décidé de la restituer un peu en avance en janvier, à concurrence de 60% du montant, et le reste en septembre de l'année suivante.
Autre cas épineux, Thierry Vu, il concerne les 250 000 salariés qui travaillent pour des particuliers employeurs. Alors là, quel est le problème ?
Alors le problème est assez simple, c'est que parmi les salariés, il y a deux catégories. Il y a les salariés qui travaillent à domicile et qui sont employés par une société de prestation, auquel cas c'est leur employeur classiquement qui va faire le prélèvement à la source. Jusque-là, pas de difficulté, on tombe dans le droit commun. Et il y a les salariés des particuliers à domicile. Et donc là, le système se complique un petit peu parce qu'il aurait fallu faire prélever l'impôt par les particuliers employeurs. Donc, je comprends que ce mécanisme-là n'est pas encore tout à fait prêt. C'est la raison pour laquelle cela a été reporté d'un an. Parce que, évidemment, c'est une forme de complexité. Il va falloir demander aux employeurs de prélever le montant de l'impôt que leur aura transmis l'administration.
Finalement, justement, quand on voit ce casse-tête, parce que c'est quand même un petit casse-tête, on se dit qu'il y a aujourd'hui un mode de prélèvement de l'impôt qui est la mensualisation. Pourquoi, par exemple, ne pas avoir généralisé la mensualisation, Thierry Vu ?
Eh bien, aujourd'hui, si vous perdez, encore une fois, votre emploi ou que vous avez un problème de trésorerie, le régime de mensualisation actuel ne permet pas de vous aider. Pourquoi ? Parce que la mensualisation, c'est la mensualisation de l'impôt sur les revenus de l'année précédente et non pas sur les revenus de l'année en cours. Donc, que vous ayez ou pas des revenus en 2019, vous devriez payer les mensualités dues à compter de l'impôt sur le revenu 2018. Dans le nouveau système, comme c'est un impôt qui devient contemporain, eh bien, vous n'avez plus ce type de questions à vous poser. Vous n'avez pas de revenus, vous n'avez pas d'impôts.
On l'entend, vous êtes un défenseur d'un impôt contemporain, autrement dit d'un impôt qui coïncide avec les revenus du ménage, du foyer fiscal de l'individu au moment même où il les touche et où il va devoir donc payer cet impôt. Néanmoins, il y a un certain nombre de critiques, toujours dans l'Humanité. Ce matin, il est intéressant de voir que cette réforme est, pour l'Humanité, soupçonné de cacher en réalité une réduction d'effectifs dans le domaine des impôts, tout simplement parce que, comme vous l'avez dit au départ, ce sont les entreprises qui vont collecter l'impôt. Alors, elles collectent déjà de la TVA, elles collectent la CSG, mais jusqu'ici, il y avait l'impôt qui, là, était prélevé par un service particulier. Est-ce que ça n'augure pas de suppression d'effectifs, une des suppressions qui pourrait être importante dans les services d'impôt?
Écoutez, je ne voudrais pas m'élever au-dessus de ma condition. Moi, je travaille dans un cabinet d'avocats en tant que fiscaliste. En revanche, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, comment est payé l'impôt concrètement? Il est payé par prélèvement bancaire, essentiellement, ou par mensualisation, ce qui correspond également à un prélèvement bancaire. Il n'y a pas d'action humaine immédiate dans le prélèvement, dans la collecte de l'impôt. Ceci a été très largement modernisé. Aujourd'hui, on ne peut plus aller payer ses impôts au centre des impôts, au service des impôts des particuliers. Ça s'appelle un SIP dans le langage technique. On ne peut plus aller payer ses impôts au SIP, sauf pour les tout petits montants.
Oui, parce que c'est un phénomène historique, c'est-à-dire qu'avec le fait de dématérialiser de plus en plus les actes administratifs, le fait d'avoir aujourd'hui un site internet qui va devenir bientôt l'unique moyen de payer ses impôts, on voit qu'un certain nombre d'opérations ont été supprimées. Est-ce que dans les autres pays, c'est également ce que l'on observe, Thierry Vu?
Tout à fait. Dans beaucoup d'autres pays européens qui ont mis d'ailleurs en place le prélèvement à la source, mais encore une fois, comparaison n'est pas raison puisque nous avons tous des systèmes fiscaux différents. Si vous allez au Royaume-Uni, par exemple, eh bien, vous apercevez qu'il y a tout se fait en ligne. Tout se fait en ligne. En Allemagne, beaucoup de choses se font également en ligne, parmi lesquelles le paiement de l'impôt.
Qu'est-ce qui va, du coup, distinguer encore le système fiscal français des autres systèmes fiscaux en Europe ou dans le monde, puisqu'on nous explique que le prélèvement à la source est aujourd'hui le mode majoritaire de prélèvement de l'impôt dans le monde?
Alors, le prélèvement à la source, ce n'est pas une réforme de l'impôt, c'est une réforme de la collecte de l'impôt. Donc, le montant des impôts ne va pas varier du fait du prélèvement à la source. Ce qui distingue la France des autres pays, c'est l'importance de ce qu'on appelle les trous dans le gruyère des impôts, puisqu'il y a énormément de niches fiscales en France. Le Parlement le sait, il y a un rapport chaque année qui est rendu annexé à la loi de finances sur le sujet. Et la prise en compte de la composition du foyer fiscal.
Oui, mais alors vous dites effectivement qu'il y a des trous dans le gruyère, que ça n'est pas une réforme de l'impôt, mais du mode donc de prélèvement de l'impôt. Et il y a quand même un petit problème, c'est la transition. Et d'ailleurs, toutes les questions qui se posent sont autour de la transition. Cette année blanche, et là c'est un petit casse-tête, c'est-à-dire qu'on a du mal à comprendre ce qui va se passer de cette année qui disparaîtrait. Évidemment, ça n'est pas ainsi que cela va se passer. Est-ce que ça, pour le coup, ça n'est pas un risque de bugs aussi bien pour les services des impôts que pour les individus?
Alors, déjà, il faudra rappeler qu'on a la chance en France. Alors, on n'est pas toujours satisfait des réponses qu'on obtient de l'administration fiscale, mais on a la chance d'avoir une administration fiscale qui est très organisée avec une colonne vertébrale. Et cette colonne vertébrale, elle s'exprime par la voix de son directeur général des impôts. S'agissant de l'année blanche, tout a été prévu dans les lois de finances et l'administration a indiqué qu'elle était prête pour la traiter. Certains revenus, il y aura une déclaration à faire sur les revenus de l'année 2018 et ces revenus feront l'objet d'un crédit d'impôt. En d'autres termes, ces revenus ne seront pas imposés à l'impôt sur le revenu, sauf cas exceptionnel, des dividendes, des intérêts, certains des plus-values.
Mais alors justement, parce que c'est là où il y a soupçon, on se dit que si on a la possibilité de moduler ses revenus, alors généralement ça n'est pas le cas des salariés, mais si par exemple on est actionnaire, si on est chef d'entreprise, imaginons par exemple qu'un individu se verse des dividendes importantes en 2018, comme en 2019 il payera ses impôts sur les revenus de 2019, est-ce qu'il n'y a pas la possibilité pour lui de faire passer à la trappe le surplus de rémunération qu'il aura touché en 2018, Thierry Vu?
Eh bien, absolument pas. Absolument pas.
Je vous Clara Lecoq-Réal est en train de se décomposer.
Non, absolument pas, puisque les dividendes, les plus-values sont hors du champ d'application de ce prélèvement à la source. En d'autres termes, les gros versements de dividendes, comme vous le soulignez, s'il y en a, seront bien imposés à l'impôt sur le revenu.
Donc,
ils ne feront pas l'objet de l'année blanche.
Et alors, c'est bug parce que...
pas un bug, ça.
Ce n'est pas un bug, effectivement, puisque vous dites que ça a été prévu. Mais lorsqu'on a pu lire, par exemple, qu'il y avait très peu de cas, 1%, moi j'ai trouvé ça énorme, 1% de bugs dans les tests qui ont été faits sur cette réforme, est-ce que ça, par exemple, ça n'est pas de nature à faire un peu peur aux contribuables que l'on est?
Écoutez, faut pas, de manière générale, faut pas. En France, on aime bien les impôts, faut pas avoir peur de la fiscalité. Une phase de test, comme l'a indiqué le ministre, c'est fait pour faire des tests. Voilà. Donc, je pense qu'il y aura pas de problème. En tout cas, je crois le directeur général des impôts et son ministre.
Thierry Vu, vous êtes avocat fiscaliste. Vous dites, en France, on aime l'impôt. Bah, on va voir ça dans quelques instants avec un sociologue, Alexis Spire. Il publie Résistance à l'impôt et c'est aux éditions du Seuil. On verra en sa compagnie si véritablement ce prélèvement à la source va pouvoir contourner notre résistance à l'impôt.
Les matins de France Culture.
Vous savez, après des décennies de tentatives avortées, des années de débats non arbitrés, des mois de préparation, des semaines de polémiques et quelques jours d'atermoiement, le gouvernement vient finalement de trancher. À compter du 1er janvier 2019, l'impôt sur le revenu des Français sera désormais prélevé à la source. Et pour en parler, pour parler de la philosophie de cette réforme et plus généralement de notre rapport à l'impôt, nous sommes en compagnie de Thierry Vu, qui est avocat fiscaliste au cabinet Francis Lefebvre et qui est ancien conseiller technique en charge de la fiscalité au ministère de l'économie. À côté de vous, Alexis Spire, bonjour. Vous êtes sociologue, directeur de recherche au CNRS et vous publiez « Résistance à l'impôt, attachement à l'État, enquête sur les contribuables français ». C'est aux éditions du Seuil. Et tout d'abord, pouvez-vous nous dire, Alexis Spire, dans quelle mesure cette réforme touche à la philosophie de l'impôt en France ? S'agit-il d'une continuité ? S'agit-il d'une rupture ?
Non, moi je crois pas que ce soit un bonjour d'abord et je crois pas que ce soit un big bang fiscal ou que je crois pas que il y a une véritable rupture. En fait, cette réforme, c'est une réforme qui faut le rappeler quand même, hein, va toucher 40% des ménages, ceux qui sont imposables, et l'impôt sur le revenu aujourd'hui c'est 25% des recettes fiscales. Donc en fait ça laisse en l'état, disons, l'ensemble du système fiscal et ses inégalités. S'il fallait le caractériser, on peut dire il y a trois points qui finalement vont rester, à savoir la familialisation de l'impôt, et ça on n'a pas voulu y toucher pour l'instant.
Philosophiquement, c'est quand même très important le fait d'avoir en France des foyers fiscaux, alors que dans les pays étrangers, la plupart des pays étrangers, c'est un individu qui paye l'impôt, qu'il soit marié, en couple, pas, enfin, peu importe. En France, ça n'est pas le choix qu'on a fait. Quand même, c'est un choix extrêmement engageant.
Oui, c'est un choix qui remonte à la Libération, mais c'est pas du tout un choix neutre en termes de justice fiscale, encore une fois, puisque ça donne une subvention aux ménages qui sont imposables et qui ont des enfants, et ça laisse sur le côté du coup ceux qui sont pas imposables ou qui peuvent aussi avoir des enfants. Et donc c'est un avantage. C'est un pavé dans la progressivité de l'impôt, et c'est la deuxième caractéristique du système français, c'est que finalement il y a une faible progressivité et une part très importante des impôts proportionnels, c'est-à-dire des impôts qui sont prélevés pour tous les contribuables de la même façon. J'entends par là évidemment la TVA, qui représente la moitié des ressources fiscales. Et puis la CSG, dont on a parlé tout à l'heure, qui touche tous les revenus. Et donc en fait, cette réforme, encore une fois, elle laisse inchangés tous ces impôts-là, et elle laisse, cette très faible progressivité du système français, qui génère un sentiment de plus en plus fort d'injustice fiscale. Et pour l'instant, il en a peu été question, parce qu'encore une fois, cette réforme, elle laisse complètement en l'état les injustices fiscales héritées du passé.
Mais alors, attendez Alexis Spire, parce que malgré tout, si on a décidé de faire cette réforme, c'était pour que l'impôt rentre mieux dans les caisses. Or, aujourd'hui, on voit qu'il y a un taux extrêmement élevé de Français qui s'acquittent de l'impôt. On est à 98%. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir qui sont les 2% qui ne s'en acquittent pas. Alors, du coup, on comprend mal pourquoi il fallait à tout prix la faire, cette réforme. On a eu le point de vue du fiscaliste qui considère que ce qui est important, c'est d'avoir un impôt contemporain, autrement dit qui corresponde aux revenus du moment. Et lorsque vous les touchez, vous les payez, et lorsque vous touchez vos revenus. Est-ce que vous avez un autre regard à ce sujet ?
On peut avoir à la fois un regard, disons, de comparaison internationale, et puis un regard historique. Encore une fois, l'idée qu'il y a derrière, c'est que ça peut renforcer l'acceptation de l'impôt, dans le sens où de l'impôt sur le revenu, qui touche essentiellement les classes moyennes et supérieures. Ça peut renforcer sauf dans la période de transition, qui va tanguer un peu, mais sinon, à moyen terme, ça peut renforcer le consentement à l'impôt de ces contribuables-là. Mais encore une fois, ce que j'essaye de montrer dans mon livre, c'est que il y a ce qu'on appelle généralement le ras-le-bol fiscal, sans du tout préciser ce qu'on met derrière. En fait, il y a un très fort sentiment d'injustice fiscale qui monte dans ce pays, et que j'ai mesuré dans cette grande enquête que j'ai réalisée en 2017, qui touche particulièrement les classes populaires et qui touche particulièrement les autres impôts dont on ne parle pas.
C'est-à-dire, expliquez-nous.
C'est-à-dire essentiellement la taxe sur la valeur ajoutée, qui est considérée encore aujourd'hui comme l'impôt le plus injuste par une majorité des Français, et puis on peut penser aussi à la
impôt injuste. Il faut développer, tout simplement parce que c'est un impôt sur la consommation, et c'est un impôt qui frappe indistinctement les riches et les pauvres.
Voilà, c'est ça, qui est relativement invisible, mais qui est quand même très très fort. Encore une fois, c'est la moitié des ressources fiscales et qui frappe tout le monde à partir du moment où vous achetez des produits. Celui-là, et puis aussi celui dont qu'on oublie souvent et dont vous avez parlé tout à l'heure, la contribution sociale généralisée, qui frappe tous les revenus et qui rapporte bien plus en réalité que l'impôt sur le revenu et que là aussi on oublie complètement dans la réforme.
Alors justement, il y a un député PCF, Jean-Paul Dufresne, qui lui n'oublie pas la CSG, puisque pour lui, cette réforme fiscale, autrement dit le prélèvement à la source, va favoriser la fusion avec la CSG. Qu'en pensez-vous, Thierry, vu vous qui avez travaillé à Bercy, l'idée finalement qui consiste à dire les entreprises sont déjà collectrices d'impôts pour l'État, puisqu'elles prélèvent la CSG, le fait de dire maintenant ça va être l'impôt sur le revenu, est-ce que finalement on ne va pas aller vers une fusion ?
En tant que fiscaliste, le monde fiscal auquel je rêve n'est pas celui dans lequel les contribuables paieraient le maximum d'impôts. Aujourd'hui, on a 37 millions de foyers fiscaux, comme on vient de le rappeler. Un sur deux paye l'impôt, environ 16 millions ou 17 millions. Tout le monde paye de la CSG. C'est assez simple. Donc, en cas de fusion entre la CSG et l'impôt sur le revenu, nécessairement, à recette ou à rendement équivalent, certains vont payer beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et donc, ce n'est pas quelque chose auquel j'aspire en tant que citoyen, de payer davantage d'impôts, puisqu'il y a beaucoup d'autres impôts qu'on paye déjà. On a oublié de parler des taxes sur l'énergie qui sont très élevées aujourd'hui, les carburants, etc., qui grèvent le pouvoir d'achat, la CSG qui frappe tout le monde, et évidemment la TVA. Donc, du point de vue du fiscaliste, et là, du point de vue peut-être du citoyen que je ne suis absolument pas favorable à une fusion d'un impôt progressif avec un impôt proportionnel.
Alexis Spire, vous, votre point de vue est un peu différent. Vous considérez que l'impôt en France est injuste, autrement dit qu'il privilégie les plus riches.
Oui, et ce qui me frappe en fait, c'est que ces dernières années, on s'est beaucoup attaqué aux impôts progressifs, c'est-à-dire à ceux qui frappent en fonction de la richesse. Il faut quand même se souvenir que ce gouvernement a supprimé l'impôt sur la fortune, qui, là je le montre dans le livre, en fait, était considéré comme l'impôt le plus juste par une majorité des Français. Et là, d'une certaine manière, on met en débat l'impôt sur le revenu, qui est le dernier impôt progressif, on peut dire justement, enfin le grand impôt progressif, qui encore une fois était réduit à sa portion congrue et de ce point de vue-là on ne touche pas au reste. Donc la fusion, en fait, c'est une question technique, mais tout dépend pour faire quoi. C'est-à-dire, si il s'agit de fusionner pour sur le principe de la CSG pour faire un impôt proportionnel, là pour le coup on risque d'aller encore plus loin dans l'injustice fiscale. Et je voudrais juste rebondir sur le fait, parce que ça aussi c'est un thème qui est souvent rabattu, c'est le fait que on a un taux de prélèvement obligatoire très important, on paye beaucoup d'impôts en France, et ce que j'essaye de montrer dans le livre, c'est qu'en général, quand on dit ça, on parle assez peu finalement de ce qu'il y a en face, c'est-à-dire de ce que ça permet en termes de modèle de société, en termes d'investissement, en termes de protection. Ce taux de prélèvement obligatoire, s'il est élevé, c'est aussi en raison de la forte part des cotisations sociales, qui par parenthèse sont une forme de prélèvement à la source, puisque la part salariale des cotisations sociales, elle est prélevée à la source. Et ça donne, des services publics auxquels les contribuables sont fortement attachés. Et en fait, quand on dit les gens ont ras-le-bol de l'impôt, ils résistent à l'impôt, etc., c'est en grande partie vrai, et c'est ce que je montre dans le livre, mais il faut aussi prendre en compte le fait qu'ils sont très attachés à ce modèle de protection sociale, ils sont très attachés à l'accès à l'hôpital public, ils sont très attachés aux services publics en général, et que donc on ne peut pas isoler, encore une fois, cette question des prélèvements et de l'ampleur des prélèvements, si on n'a pas en face, et je pense que c'est important dans la discussion budgétaire, l'attachement très fort aux services publics que ça rend possible.
Thierry Vieux.
Tout à fait. Juste un détail, cette réforme va avoir au moins un avantage au sujet de la pression fiscale, c'est que chaque contribuable va avoir en lecture directe sur sa feuille de paye le montant de l'impôt qu'il supporte, y compris avec les cotisations salariales et la CSG. Et donc, à l'avenir, en termes de politique fiscale, lorsqu'un gouvernement dira « je baisse les impôts, j'augmente les impôts », il y aura un effet immédiat, quasi immédiat, qui se verra directement sur la fiche de paye. Et ça, c'est l'un des avantages, au moins, de cette réforme.
Alexis Spire, vous avez l'air d'être plus dubitatif.
Oui, plus dubitatif, parce qu'en fait, ce qu'on oublie de dire là-dedans, et c'est quand même quelque chose d'une particularité du système français, c'est évidemment l'importance des niches fiscales qui profitent essentiellement à la partie supérieure des classes moyennes et aux classes supérieures, et que en fait, cette transparence, elle existe pas vraiment aujourd'hui, puisqu'on ne touche pas, on a une forme de record là aussi, hein, en termes de nombre de niches fiscales, et on a décidé de ne pas y toucher, et donc en fait, il n'y a pas véritablement de transparence, dans le sens où c'est très compliqué en France de savoir qui paye quoi, parce que, et là on le voit bien, c'est-à-dire c'est pour préserver ce système, et en fait c'est même, on a mis en avant comme priorité la préservation de ce système de niche fiscale, puisque ce qui a été décidé finalement dans le deal final, c'est d'offrir un crédit d'impôt encore plus important, un effet trésorier encore plus important aux ménages qui sont susceptibles d'en bénéficier, et donc c'est pas du tout une question marginale, cette question des niches fiscales, c'est en fait quelque chose qui est au cœur du réacteur et au cœur de l'acceptation politique de l'impôt, et qui rend en fait l'impôt pas si transparent que ça, en fait.
C'est intéressant, cette question des niches fiscales. Thierry, vu vous qui êtes avocat fiscaliste, est-ce que à l'étranger, par exemple, il y a beaucoup moins de niches fiscales, puisque après tout, on entend toujours dire qu'en France, il y a un nombre d'exceptions particulièrement élevé. Est-ce véritablement le cas? Y a-t-il une singularité française en la matière?
Il existe également des niches fiscales à l'étranger. Ça concerne à la fois les entreprises. En France, on a le crédit d'impôt recherche, qui n'existe pas nécessairement à l'étranger, mais d'autres systèmes existent. Et il existe également des dispositifs pour les particuliers, alors qui vont peut-être pas nécessairement prendre la forme d'un crédit d'impôt ou d'une réduction d'impôt comme en France, mais ça peut exister. En revanche, dans une proportion moins importante, je rappelle qu'en France, on a énormément d'avantages fiscaux pour des investissements immobiliers, pour des dons à des associations, etc., etc.
Mais ça, c'est des emplois à domicile. Par exemple, pour les dons aux associations, j'ai même tendance à dire que c'est plus important dans les pays anglo-saxons.
Le taux français est le plus important. Et on accorde même l'avantage fiscal à raison d'associations qui sont situées dans d'autres États que la France. Donc c'est quelque chose d'extrêmement favorable, le système français en la matière.
Alexis Spire.
Oui, les niches fiscales existent à l'étranger, bien sûr, mais en fait elles sont en nombre beaucoup moins important. Pourquoi ? Parce que dans la plupart de ces pays, il y a le prélèvement à la source, l'impôt est individualisé, et que les deux sont quand même assez contradictoires, et qu'en voulant conserver les deux en France, on va, à mon avis, au-devant de pas mal de difficultés. Je vais juste prendre un exemple historique pour sortir un peu du cas français. En fait, un des exemples les plus récents, parce que la plupart des pays européens, en fait, ont adapté le prélèvement à la source, soit après la Première Guerre mondiale, soit après la Deuxième Guerre mondiale. Mais on a le Danemark qui l'a adopté en 1967 et au terme d'une campagne de gauche, parce qu'en fait de la gauche danoise qui avait présenté un package, et je pense que c'est assez intéressant comme exemple historique, hein, c'était un package qui voulait à la fois le prélèvement à la source, l'individualisation de l'impôt et la suppression de la plupart des niches fiscales, en fait. Et ce qui est en fait une réforme d'une certaine manière qui est assez logique, c'est-à-dire où on réforme à la fois la technique, mais on prend la peine aussi de réformer sur le fond le système fiscal.
Et alors vous dites dans votre livre, Alexis Spire, Résistance à l'impôt, qui est publié aux éditions du Seuil, vous dites que les impôts font l'objet d'une dramaturgie médiatique. C'est amusant, ça veut dire qu'il y a aussi une responsabilité dans les médias, peut-être dans l'exercice auquel on est en train de se livrer, est dans le fait d'accroître la résistance à l'impôt, c'est ça que vous voulez dire ?
Ça, très franchement, c'est difficile à mesurer les effets que les discours médiatiques peuvent avoir sur les contribuables. C'est assez compliqué à mesurer.
Alors, par contre,
ce qu'on peut mesurer, et ce que j'ai essayé de mesurer dans le livre, justement, c'est avec des comptages disons systématiques à l'INATEC, on peut voir dans les journaux du soir de 20h quel est l'impôt qui est le plus souvent abordé. C'est l'impôt sur le revenu. Et encore une fois, on met ça en perspective avec la présence de l'impôt, enfin de la TVA ou de la CSG, et on voit que encore une fois, cette dramaturgie, elle s'organise autour de l'impôt sur le revenu, alors que c'est une part très marginale, encore une fois, des recettes fiscales. Et puis cette dramaturgie, c'est aussi à travers la dynamique des scandales fiscaux, hein, qui rythment, on va dire, l'actualité depuis plusieurs années. Et du coup, on perd de vue là aussi, encore une fois, et c'est ce que j'essaye de montrer dans le livre, on perd de vue là aussi la contrepartie de l'impôt. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il est question d'argent public, finalement, on en parle pour des affaires de corruption, des affaires de scandales financiers, et on oublie un peu vite ce que cet argent public donne pour les contribuables et rend possible pour l'ensemble de la société.
Mais est-ce que ça n'est pas une schizophrénie habituelle? Est-ce que ça n'est pas finalement une variation du not in my backyard américain? Autrement dit, le fait de considérer que tout cela est très juste, qu'il faut payer des impôts, mais que c'est mieux si c'est l'autre qui en paye.
Bah, on pourrait considérer ça, mais en fait, le problème, encore une fois, de ce système fiscal français, c'est qu'on ne sait pas très bien qui paye quoi. Donc, on peut, justement, du fait de l'opacité du système et du fait de...
Pourquoi opacité ? Parce que les taux de prélèvement sont évidemment publics.
Oui, mais c'est un système d'une très grande complexité. Et ce que je montre dans le livre, c'est que, par exemple, quand on pose des questions sur est-ce que tel impôt est progressif ou proportionnel, on se rend compte que la connaissance même du système fiscal est très, très imparfaite.
Donnez-nous des exemples.
Je prends l'exemple de la CSG, encore une fois, comme on l'a dit, qui frappe tous les revenus et où on se rend compte que, dans l'enquête statistique qu'on a menée, c'est autour de 20% des Français, enfin des contribuables salariés qui savent pas ce que c'est, qui sont pas capables de dire si c'est proportionnel ou progressif. Et dans les entretiens, beaucoup d'enquêtés qui disent « Ah non, mais moi, la CSG, non, je la paye pas. Bon, en fait, ça me concerne pas. » Alors qu'en fait, comme ils touchent des revenus, évidemment, ils sont concernés. Sauf qu'en fait, ils ont complètement, oublié cette présence-là. Et donc là, je pense
que... Mais ça, c'est aussi une bonne affaire pour l'État. Parce que lorsque Michel Rocard a mis en place cet impôt qui devait, je crois, être provisoire à l'époque où il a été fait, un impôt qui, en plus, est un impôt particulier, puisque cet impôt n'est pas déductible des revenus, c'est-à-dire qu'on paye un impôt sur l'impôt. Donc, c'est un problème particulier à la CSG. Mieux vaut que l'État ne fasse pas trop de publicité autour de cet impôt, quand même, Alexis Pien. Ou alors là, fais de la dramaturgie médiatique.
Non, on peut avoir ce point de vue-là et mettre en avant les questions budgétaires. Mais encore une fois, il faut avoir en tête les questions de justice fiscale. Et pour pouvoir discuter des questions de justice fiscale, il faut un minimum de transparence sur les principes et sur ce qu'on défend. Et on a l'impression qu'en France, dans le domaine fiscal, comme dans beaucoup de matières, on a des principes affichés qui sont très généreux et très justes. Et en particulier, l'impôt progressif et la justice sociale par l'impôt, etc. Et quand on regarde de près dans la mise en œuvre et dans toutes les exceptions, dérogations, etc., on est très très loin des principes affichés.
Qu'en pensez-vous, Thierry Vieux ?
Écoutez, s'agissant de la question de qui paye quoi en matière d'impôts, les choses sont assez claires. Un foyer sur deux ne paye pas d'impôt sur le revenu et le rendement, en réalité, de l'impôt sur le revenu, il est concentré à 70% sur 10% des foyers fiscaux. En d'autres termes, 10% des foyers payent 70% de l'impôt sur le revenu. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement concentré et moi, je ne partage pas la position selon laquelle, du fait des niches, certains pourraient complètement s'affranchir de l'impôt. Ça, c'est un peu, pour moi, une vue de l'esprit. Ce qui est sûr, c'est que 10% payent 70%.
Alors, vous n'êtes pas d'accord avec ça, Thierry Vieux, et cependant, notre confrère Lopes, aujourd'hui, publie ce qu'il appelle les Dubai Papers, des révélations sur un nouveau scandale de fraude fiscale. Alors, ce scandale toucherait, je mets ça au conditionnel, un cadre d'Areva qui aurait amassé une fortune considérable et multiplié des opérations opaques à l'étranger. On a affaire à un réseau international, nous dit Lopes, de fraude fiscale et de blanchiment. Vous avez regardé ce dossier, Alexis Pire, qu'en pensez-vous ?
Non, je pense que c'est un dossier qui vient après beaucoup d'autres, mais juste sur ces questions. L'intérêt de ces scandales financiers fiscaux, en fait, hein, c'est aussi de découvrir des cas assez hallucinants, grandeur nature. Le plus symbolique étant celui de Liane Bettencourt, où on a découvert qu'elle payait quasiment pas d'impôt sur le revenu, justement parce qu'elle était très bien conseillée par des avocats fiscalistes, et que donc ça, c'est le premier intérêt de ces scandales.
Alors là, il y a quand même une distinction à faire, Alexis Spire, parce que dans le cas de Liane Bettencourt, on a affaire à une utilisation, une optimisation fiscale, comme on dit poliment, autrement dit quelque chose qui a priori n'était pas répréhensible. Il y avait des choses qui étaient répréhensibles dans la gestion des actifs de Liane Bettencourt, mais cette partie-là ne l'était pas. En revanche, les Dubai Papers, les Panama Papers, là, on a affaire à de la fraude fiscale, et la fraude fiscale, bah, évidemment, c'est une action répréhensible devant les tribunaux.
Oui, alors là, on est vraiment dans la dramaturgie médiatique, parce que bon, d'abord, la frontière entre l'optimisation et la fraude, c'est une zone grise qui est souvent tranchée par les tribunaux, mais qui reste malgré tout une zone grise. Mais peut-être ce que ça révèle, en tout cas, ces scandales, c'est aussi si on veut prendre un peu de distance et avoir une perspective un peu sociologique et macro-sociale, je pense que ça reflète aussi une technicisation de la fraude fiscale, des montages financiers. et le fait que il faut de plus en plus pour, c'est-à-dire qu'on est sorti de l'ère où on pouvait se balader en Suisse avec une valise de billets. Ça, c'est vrai que ce moment-là est terminé et que maintenant on est dans une industrialisation de la fraude fiscale avec des montages qui sont de plus en plus complexes, mais aussi de plus en plus efficaces et de plus en plus massifs. Et que par rapport à ça, là encore, il y a eu beaucoup de déclarations faites sur les paradis fiscaux, c'est terminé, hein, ça, pour rendre justice à celui qui l'a dit, c'était Nicolas Sarkozy, et où on voit que en fait, on a une succession de scandales qui montrent que la liste des pays peut changer, on bouge d'un pays à l'autre.
C'est quand même plus compliqué.
Oui, tout à fait. Ça devient de plus en plus compliqué et donc on peut pas le faire tout seul.
Pascal de Saint-Amand, qui est à l'OCDE et en charge de la question des paradis fiscaux, dit lui-même que effectivement il y a un sens de l'histoire qui tend à rendre beaucoup plus difficile l'évasion fiscale.
Ouais, mais pour prendre une comparaison, enfin je veux dire, c'est de plus en plus compliqué d'arriver en France pour des migrants et c'est pas pour ça que les migrants arrêtent d'arriver. C'est de plus en plus compliqué de pratiquer de la fraude fiscale, mais les intermédiaires, font le nécessaire pour que ça puisse continuer, encore une fois, avec des montages de plus en plus subtils, mais qui restent, et ce dernier scandale le montre, assez efficace.
Thierry Vieux, justement, quand vous entendez Alexis Spire, alors lui est sociologue, il dit qu'il y a une zone grise entre l'optimisation fiscale et la fraude fiscale. Vous, qu'est-ce que vous en pensez du point de vue de la loi? Que dit la loi? Est-ce qu'il y a une zone grise ou est-ce que les choses sont claires?
Dans la loi, il existe un dispositif en matière fiscale qui s'appelle l'abus de droit. Lorsqu'on abuse d'un droit fiscal, eh bien, cela peut être remis en cause. Et l'administration fiscale le fait régulièrement. Je rappelle qu'elle fait environ 1 million de contrôles chaque année, ce qui est considérable. Les moyens à la disposition des administrations fiscales, du fait des travaux à l'OCDE, ont été considérablement renforcés et permettent aujourd'hui de faire des échanges très faciles d'informations avec de nombreux pays, y compris en Europe, hors de l'Europe. Et l'administration fiscale dispose d'énormément d'informations maintenant. Et encore une fois, il est beaucoup plus difficile aujourd'hui de frauder, de faire de la fraude fiscale, ce que ne conseillent absolument pas les avocats, je tiendrai à le dire. Les avocats sont uniquement là pour appliquer la loi et non pas conseiller la réalisation de fraude.
D'ailleurs, parmi les mesures dont il est question pour lutter contre la fraude fiscale, il est question d'appeler en responsabilité les avocats, d'attaquer les avocats qui pourraient fabriquer des montages, illégaux.
Alors, de toute façon, un avocat ne doit pas être complice d'un mécanisme de fraude fiscale. Que les choses soient parfaitement claires là-dessus, il peut déjà être poursuivi pénalement. Ce qui arrive au niveau européen, effectivement, c'est un dispositif qui prévoit que les intermédiaires, et pas uniquement les avocats, ça peut être des banquiers, des notaires, etc., devront à l'avenir déclarer à l'administration certains montages internationaux.
Alexis Spire.
Là, pour le coup, on touche à aussi une spécificité française, c'est-à-dire que dans les pays anglo-saxons et notamment aux États-Unis, il y a une politique de frapper systématiquement et de façon énergique les intermédiaires qui rendent possible ces montages et qui leur donnent leur côté industriel. En France, en fait, pendant très longtemps, on s'est pas du tout intéressé aux intermédiaires fiscaux, aux avocats fiscalistes, parce qu'il y en a qui le font. Mon voisin de gauche, sans doute pas, mais il y en a qui consacrent une bonne part de leur activité à des montages frauduleux et on a très peu traduit en justice, disons, ces avocats. On a quelques procès là très récemment où on en a un ou deux qui ont suscité le scandale.
Dans les Panama Papers, par exemple, il y a une officine qui a été largement incriminée.
Oui, voilà, mais et dans le procès Ritchie, en fait, voilà, il y avait un avocat qui était présent, mais encore une fois, c'est très marginal. Et l'idée, c'était, pour l'instant, on va dire que tous ces intermédiaires sont restés dans l'impunité quasi totale, en fait, en France, en tout cas.
En guise de conclusion, est-ce que vous êtes serein, Thierry Vieux, en matière donc d'application de ce prélèvement à la source? Est-ce qu'il y a des craintes qui sont des craintes mal fondées? Est-ce qu'il va y avoir nécessairement des problèmes d'application?
Il y a toujours des craintes face à un changement. Je rappelle que c'est pas la première fois qu'on fait une réforme fiscale. On a supprimé la taxe professionnelle il y a quelques années sans que cela ne crée de polémique. Moi, j'ai parfaitement confiance dans l'administration qui indique qu'il travaille dessus depuis 2 ans et le ministre a indiqué que cela fonctionnait. Donc je pense qu'il n'y a pas de crainte à avoir et que les choses fonctionneront.
On a peu parlé d'ailleurs de la taxe d'habitation, de la taxe foncière parmi les différents impôts. Alexis Spire, vous qui êtes sociologue, qui vous penchez sur l'impôt, ce sont des taxes qui ne vous intéressent pas, qui...
Ah non, pas du tout. J'y consacre pas mal de passages dans le livre parce que je pense que c'est notamment cette fiscalité locale, elle pèse beaucoup sur les classes populaires.
Emmanuel Macron a dit qu'il allait très largement la remanier.
Oui, mais en fait, la taxe d'habitation, il y avait tout un système d'abattement et de dégrèvement qui protégeait d'une certaine manière les ménages non imposables. Ce qui n'est pas le cas de la taxe foncière où on a une part importante des classes populaires qui possèdent leur logement et il n'y a aucun dispositif de dérogation ou d'abattement pour la taxe foncière. Et d'une certaine manière, ce qui est frappant, c'est qu'on a décidé de, c'est clair que deux taxes de cette voilà, on pouvait vouloir simplifier mais on décide de s'attaquer à celle où il y avait des dispositifs de dégrèvement en fonction du revenu et on ne touche absolument pas à la taxe foncière que vous payez, que vous soyez propriétaire à plein ou endetté jusqu'au cou, vous devez votre taxe foncière.
Merci Alexis Spire. Résistance à l'impôt, attachement à l'État, c'est une enquête sur les contribuables français, c'est le livre que vous publiez aux éditions du Seuil. Merci beaucoup Thierry Bue, je rappelle que vous êtes avocat fiscaliste. Vous pourriez par exemple conseiller Bouba et Caris parce qu'ils ont probablement aussi différentes considérations fiscales et ça va être le thème du billet culturel de Mathilde Serrel.